vie étudiante et associative.
C'est la grande voile.
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti.
Culture.
Immersion dans 10 secondes.
Et même du sport.
Take that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien dans le sous-marin sur Campus et nous sommes ensemble pendant une heure pour faire fonctionner nos sonars et nos méninges. Au programme de l'émission de ce soir, on va parler de sketch avec le Festival des Sketchs de Montreuil-Juigné. Et pour ça, nous avons Alain et Alain, les deux A, vont nous parler de ça. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Et nous allons également parler d'une exposition florale traditionnellement organisée par Agro Campus Ouest. Et cette année, pour nous en parler, nous avons Adèle, Charlotte et Maëlie. Bonsoir à toutes les trois.
Bonsoir.
Et puis, on va aussi parler d'une chose assez exceptionnelle. Marc, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Louis.
Toi, tu vas nous parler de la nouvelle JAPD.
C'est ça, oui, je garde un peu de surprise, un peu de mystère.
C'est bien, fais du teasing, il faut. Et comme d'habitude, on commence par un reportage, mais j'en profite pour vous dire qu'en fin d'émission, comme tous les lundis, vous retrouverez les imposteurs.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et Mathieu, un reportage qui concerne le graphe, il me semble.
Oui, c'est ça. Samedi dernier avait lieu l'événement Story Graphium, place du ralliement à Angers. Une quinzaine d'artistes graffeurs étaient présents pour peindre sur les vitrines des Galeries Lafayette, un événement artistique organisé par des étudiants de la Cato, par l'intermédiaire de l'association Memory. Marie Roy, Betty Monteco et Yanis Diga nous racontent comment est né le projet.
Au début, on ne pensait pas du tout à ça, on était partis sur une course. Et finalement, au fur et à mesure que les jours avançaient, on s'est rendu compte qu'il fallait totalement partir sur autre chose. Et on a pensé aux galeries, on a pensé graphes, et ça a donné ce qu'il y a aujourd'hui.
C'est 15 artistes qui vont graffer sur les vitrines de Galerie Lafayette. Alors notre objectif, c'était de promouvoir l'art de rue, donner une bonne image au graffiti, au street art, puisque souvent les tags étaient associés, au vandalisme. Donc on voulait que l'art du graffiti soit reconnu comme un art comme un autre, surtout un art urbain et contemporain.
Un événement visant donc à promouvoir le street art, d'accord, mais pourquoi avoir choisi les Galeries Lafayette, magasin dont l'image est à l'opposé de l'idée qu'on se fait du graffiti?
Bah justement, les Galeries Lafayette sont un peu là où on les attend pas. On voulait les montrer aussi sous un autre aspect, montrer le graphe, le côté artistique et pas la dégradation.
Alors les Galeries Lafayette, auparavant, ils avaient déjà fait du graffiti et street art. Pas sur Angers, mais sur Paris. Paris, ils sont adeptes de ce genre de choses. Donc on s'est dit que les galeries, c'est un lieu stratégique. Tout le monde passe ici. C'est le centre-ville, Angers, c'est petit. Également avec le tram, les gens peuvent voir ceux qui sortent des cours, ceux qui vont aller manger le midi, ceux qui vont dans les bars et tout ça. Donc on s'est dit que c'était vraiment le lieu où il fallait promouvoir cet événement-là.
Ouais, c'est ça.
Les artistes graffeurs devaient donc s'exprimer autour d'un thème commun, wild, c'est-à-dire sauvage en anglais. Pour certains, l'expérience a été quelque peu délicate. Pierre et Karl, deux artistes présents à l'événement, nous expliquent pourquoi.
Parce que forcément, c'est un petit peu l'antithèse du graffiti. Il y a une sorte de chose antinomique entre les Galeries Lafayette et puis le graffiti d'autre part. Et puis, deuxième chose, si, ça fait bizarre parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, mais ça, c'est agréable parce que les gens sont plutôt réceptifs.
Moi j'ai sauté sur l'occasion, c'est vrai que d'habitude je peins sur des toiles, là faut peindre sur une vitrine, c'est pas la même chose. Et je mets vachement plus de temps quand je fais une peinture sur une toile. Donc là sur une vitrine, on a commencé à 10h ce matin. Normalement on devrait pas tarder à terminer, donc faut se speeder un peu plus, donc faut pas utiliser les mêmes techniques de peinture. Quoi.
Passants et artistes se mêlaient donc en échangeant autour du street art. Andrew Wallace, artiste peintre, nous donne une vision très positive de l'événement.
Bah, ça plaît beaucoup et j'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas énormément de manifestations artistiques.
Ce qui est dommage parce que ça rassemble beaucoup les gens. Ça permet de discuter et de savoir qui est qui. Et justement, les gens qui sont artistes et qui ne peuvent pas développer leur art parce qu'il ne se passe pas grand-chose chez eux, ça leur permet de rentrer en contact avec des artistes et éventuellement de s'échanger des projets, des plans. Et donc, voilà, c'est un bon échange et qui est très important pour la culture, surtout en France, parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Ça part un peu en freestyle, mais voilà, il faut s'ouvrir aux gens, à l'art, à la culture, c'est ce qui rassemble les gens, les peuples, voilà. Ça peut emmener que du bon.
Le public était également à l'honneur, puisqu'un espace de création permettait à tout le monde de s'essayer au graphe, un exercice plus difficile qu'il n'y paraît.
Bah, c'est pas facile parce que c'est une surface vachement lisse, c'est de la vitre, et du coup... Ouais, c'est vraiment pas simple, mais je pensais faire des trucs plus... pas aussi propres, quoi.
C'est compliqué, après ça dépend des types de bouchons, du vent, de la texture où tu peins, du type de la bombe aussi. Mais c'est super intéressant. Mais dès que tu comprends comment il faut bouger la bombe, c'est après ça va tout seul.
Beaucoup d'avis positifs pour cette manifestation artistique. Quelques passants nous ont donné leur opinion sur l'événement.
Je pense que ça fait déjà quelques temps que le street art est rentré un petit peu dans les mœurs. On voit qu'il y a des endroits dans le monde où les gens spontanément décorent leur rue parce que personne ne va le faire à leur place. Bon, ça correspond un petit peu à ça. Évidemment, ça demande peut-être un minimum d'encadrement pour pas que ça devienne n'importe quoi, mais... ça me paraît très naturel de décorer les rues, quoi.
C'est peut-être un moyen de montrer que c'est pas un art qui est conventionnel et du coup c'est peut-être bien de montrer qu'il y a du boulot derrière et que, c'est pas et que ça permet de revendiquer des choses sans être forcément agressif et voilà, peut-être aller au-delà des préjugés qu'ont les gens, peut-être un bon moyen, quoi.
Ah, ça, je trouve ça génial de prendre sous les... Enfin, parce que c'est totalement paradoxal. Enfin, les Galeries de Lafayette, ça m'inspire l'élégance, la perfection des gens, le conformisme et tout. Après, tu vois ça sur les vitres. Et c'est génial. Enfin, en plus, ils sont trop cool les dessins.
Donc, je vous rappelle pour finir que les œuvres des street artists sont encore visibles jusqu'à demain soir. Après, elles seront effacées. Donc, si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller les voir, n'hésitez pas à y aller, ça vaut le détour.
Adèle, Charlotte, Maëlie, ça vous parle, vous, le street art? Je ne sais pas qui veut y aller.
Bah, j'y vais alors. Bah, oui, c'est quelque chose d'intéressant. Puis en plus, je fais un petit peu de la pub pour notre expo, puisque justement, on va un petit peu en parler. Parce que le thème de cette année, c'est Semons la zizanie. Et on va profiter de ça pour reconstituer dans un certain nombre de stands un univers un peu urbain. Et dans un de ces stands, notamment, il va y avoir un petit peu de street art. Donc je ne vous en dis pas plus pour que vous puissiez venir découvrir ça ce week-end. Mais voilà, donc on pense que c'est une bonne idée, ça met de la vie. Et, c'est participatif et c'est pas mal, c'est sympa.
Les deux A, vous en pensez quoi? Vous avez une affinité avec le street art ou...
Moi, je dessine, mais je n'ai pas d'affinité. Moi, les dessins que je fais, c'est cadré. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on l'a fait à Montreuil, sur un mur dans l'enceinte sportive. La difficulté qu'on leur avait donnée, c'est de faire un thème sur le sport. Ça les avait contrariés un petit peu au départ, parce qu'ils aiment bien faire ce qu'ils veulent comme dessin. Mais à la sortie, ils ont fait quelque chose de très, très joli sur toutes les sports qui se pratiquent dans la salle. Et là, ils viennent d'en faire un derrière le mur du tennis, une espèce de grande, comme un pan.
Une fresque, en fait.
Ouais, qui est pas mal aussi. Mais bon, là, c'est un peu plus extérieur. L'autre, c'était dans l'enceinte. On ne pourrait pas laisser faire... La difficulté qu'ils ont, c'est... On est souvent sollicité par l'espace jeunesse pour avoir des murs pour faire. Et on ne peut pas faire n'importe comment, parce que nous, on pensait qu'on leur donnait le mur, puis ils dessinaient, c'était parti. Non, il a fallu traiter le mur avant. Les employés municipaux l'ont travaillé, l'ont traité pour que ça tienne.
Non, on n'a pas l'impression non, comme ça, pas, mais il y a un vrai travail derrière aussi de préparation de la matière
et
de
s'adapter. C'est pas si simple. Nous, on pensait qu'on vous a donné un mur, allez-y, Eh non. Ça fonctionne pas comme ça.
Alors Marc, tu as fait du teasing en début d'émission. Eh ben, écoute, on va arrêter de faire languir nos auditeurs.
9h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ça y est, Marc, tu es passé dans la cour des grands, hein, on peut dire ça comme ça depuis peu, puisque désormais, tu es apte à défendre ta patrie. Vas-y, tu vois, raconte-nous là, parce que dis-nous en plus.
Je suis plus le même homme, Pierre-Louis. Peut-être qu'autour de la table, vous avez deviné de quoi j'allais vous parler, car oui, vous aussi vous êtes passé par cette journée émancipatrice, qui forme un caractère, une vision de la vie, un homme. Mais oui, Pierre-Louis, je vois tes yeux briller rien qu'à l'évocation de ces 8 heures mythiques, la JDC. Enfin, JAPD pour toi, sans vouloir te vieillir, chef.
Ouais, non, vas-y, arrête avec ça, continue.
Alors, je vais me faire plaisir, je vais dire que j'ai fait mon service militaire. Non, je vous assure, c'est bien ce passage obligé dans la vie de chaque bon enfant de la patrie qui le remplace. J'espère juste ne pas être envoyé au front tout de suite, parce que, ok, je sais que pijule ne fait pas partie de la langue française, mais bon, comme arme de dissuasion, il y a mieux. Bon, allez, il est venu le temps pour moi de vous décrire ma super journée. 8h30, arrivé au 2e régiment d'infanterie de marine. Bon, déjà, tu sens la grosse ambiance sur le parking avec ce genre de silence qui te fait sentir que tu vas passer une bien bonne journée animée. Après avoir attendu une demi-heure sous la pluie et le vent, enfin nous rentrons dans notre salle, accompagné d'une trentaine d'inconnus devant qui, bien sûr, tu vas devoir te présenter en sachant que tout le monde s'en branle totalement. Après ça, discussion sur ce qu'est la défense dans notre pays avec deux animateurs passionnants, et là par contre, je rigole pas, heureusement qu'ils étaient là pour sauver cette journée. Je sais désormais qu'un tremblement de terre représente un risque pour notre pays, même si le dernier s'est déroulé en 2009 en Alsace et qu'il aurait, selon de sources sûres, fait trembler une assiette. Bon.
Impressionnant.
Mais bon. Impressionnant. Mais bon, le bonheur est de courte durée, car après ça, j'ai enfin pu comprendre le sens du mot mascarade. Le test de français. Savoir si un mot existe ou pas, pijule, joucafole, affitier, ou encore à savoir si danger et ranger se prononcent de la même manière et j'en passe. Viens ensuite l'heure du repas, tout seul évidemment. Le moment où tu sais, Pierre-Louis, tu regardes Facebook, même si tu n'as plus de crédit internet pour te donner une contenance. Bon allez, je vous épargne l'après-midi qui ressemble sensiblement au matin entre sécurité routière et chiffres sur la défense. Et ça y est, 16h30, j'ai le papier en main, le précieux sésame qui m'ouvre les portes de tout projet professionnel. Enfin, surtout celui de clôturer mon inscription à la fac. Mais en fait, pour finir, combien ça coûte à l'État, enfin à nous en fait, d'organiser une JDC? 190€ par tête. Vous multipliez par le nombre d'élèves français et vous obtenez un montant qui pourrait peut-être être utile à ceux qui galèrent pour dormir au chaud. Donc bon, si je peux donner mon avis, le principe de cette journée est plutôt bien, mais soit on fait le truc à fond, soit on le fait pas. Mais prétendre remplacer le service militaire par une seule journée est tout simplement ridicule. Donc bon, bon courage à tous ceux qui ne l'ont pas encore passé, et vive la France.
Merci beaucoup Marc. Alain, je vous ai vu tiquer au moment où Marc commençait à comparer ça au service militaire. Finalement, sa chute, elle vous rassure? Non.
Oui, mais moi, à mon époque, je voulais pas le faire, le service militaire non plus.
Oui, c'était pas forcément mieux, là, on n'a pas le choix non plus, mais bon, prétendre.
Oui, sur une journée, effectivement, c'est pas... Mais j'ai des bons souvenirs, moi. J'ai des bons copains, j'ai fait des belles fêtes. Bon, évidemment, on a fait plein de trucs absurdes, hein. Mais moi, je pense que le service militaire, ça avait au moins un but. Ça aurait permis, peut-être, à mon avis, des jeunes de banlieue de rencontrer ceux du milieu rural. Il serait peut-être ouvert les yeux, certains dans un sens et d'autres dans l'autre.
Et pour tout
le
monde.
Je suis peut-être un petit rêveur, mais entre une journée et un an, comme on faisait, il y avait peut-être une cote à mettre entre les deux, peut-être, non?
Peut-être, oui.
Bon, enfin, je vois que vous n'êtes pas militariste, bon, tant pis, je me retire.
Adèle, Charlotte, Maëlie, vous êtes retrouvés dans cette journée de JDC, maintenant, qui ne s'appelle plus la JAPD.
Ah bah oui.
Ouais, Maëlie.
Oui, bah oui, comme tout le monde, je crois qu'on a été obligés d'y aller. Donc.
Et c'est toujours passionnant.
Voilà,
hein,
comme vous l'avez
entendu. Il y a le sous-marin revient juste après Jimmy Tenor avec le titre Order of Nothingness.
Bad. It was sweet. I saw the
Vous êtes toujours dans le sous-marin sur campus et tout de suite, eh bien, on va parler d'exposition florale avec Adèle, Charlotte et Maëlie. Vous faites partie d'Agro Campus Ouest qui organise traditionnellement cette exposition florale. C'est la 19e cette année. Ça se passe du 18 au 20, il me semble.
C'est ça.
Même si c'était marqué du 18 au 19 quelque part.
Ce n'est pas ça.
Hein, on précise bien que c'est du 18 au 20. Avant de rentrer dans le détail, vous allez peut-être nous parler un peu de ce que vous faites à Agro Campus Ouest. Rappeler à nos auditeurs qui ne connaissent éventuellement pas l'école. Je ne sais pas qui veut y aller. Tout le monde a l'air de se tourner vers Adèle. Donc je suis désolée, Adèle, mais c'est pour toi.
Alors moi, donc, je suis chargée de communication. Donc, c'est-à-dire que je vais gérer tout ce qui est la diffusion d'affiches, les partenariats aussi, et tout ce qui est sponsoring aussi.
Et l'école en elle-même, on y apprend quoi ? Il y a quoi comme cours, par exemple ?
Nous, en troisième année, en fait, de la première à la troisième année, c'est surtout des sciences de l'ingénieur. Donc, toujours autour, forcément il y a des mathématiques, il y a de la physique-chimie. Et c'est après ensuite, à la quatrième et cinquième année, où on fera vraiment une spécialisation entre le paysage ou l'horticulture.
Alors on va parler de votre expo qui s'appelle « Semons la zizanie ». On va peut-être définir la zizanie. Moi j'étais surpris au début quand je suis tombé sur la définition que vous donnez, mais vous allez peut-être la donner à nos auditeurs. Je ne sais pas qui veut y aller. Charlotte, tu avais l'air partie.
Oui, pourquoi pas. Alors en fait, la zizanie, donc, c'est une expression que tout le monde connaît, mais en fait, il y a peu de gens qui savent que la zizanie, c'est une plante en fait, d'où le nom, ce mot la zizanie. Et en fait, c'est une forme de riz sauvage qui sera présentée aussi dans l'expo forcément. Ça va être le stand phare qui va être un petit peu en introduction du parcours. Et toute notre expo a été articulée autour de ce thème-là, donc ça a été décliné en plusieurs... tous les étudiants sont vraiment partis de ça pour interpréter chacun à leur manière ce que ça voulait dire pour eux. Et donc après, on aura des stands un petit peu autour, par exemple, de la mythologie, donc d'autres sur plutôt le contraste entre l'urbain et le sauvage. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses un petit peu comme ça. Ouais,
beaucoup de déclinaisons possibles autour de ce thème-là, quoi. Donc, c'est ça qui était intéressant aussi, outre le jeu de mots. Voilà.
Les deux A, vous connaissiez cette définition de la zizanie, ou pour vous, la zizanie, c'était, comme pour moi, un peu le bordel, quoi.
Oui, on peut lire le bordel. Non, moi, ce que je voulais dire, je connais leur exposition, j'y suis allé déjà deux ou trois fois, et c'est vraiment une très très belle exposition, et vraiment, j'engage à ceux qui ne la connaissent pas à venir la voir, parce qu'ils font un gros travail, hein, c'est assez étonnant de voir l'école transformée avec des plantes partout, dans des classes, dans des endroits imprévus. Et c'est vraiment une très belle exposition et j'engage vraiment les gens à aller la voir.
Même ceux qui la connaissent pas déjà d'ailleurs. Ouais. Vu que ça change tous les deux ans, on fait des trucs très différents. Okay.
Et alors, qu'est-ce que vous faites cette année ? Qu'est-ce qu'il y a au programme concrètement ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? On imagine beaucoup de plantes, de fleurs, mais comment c'est organisé ? Est-ce que vous travaillez par exemple une scénographie autour ? Ça se passe comment ?
Bah là, du coup, ça va être donc un parcours qui est proposé aux visiteurs. Donc avec des passages dans les différentes salles de classe, qui du coup sont transformées en stands. Donc il y a différents axes. Il y a à la fois des axes un peu scientifiques, un peu pédagogiques, autant pour les petits que les grands. Enfin voilà, c'est quand même un peu de la vulgarisation scientifique autour du végétal. Mais également une présentation... dans certains stands plus artistiques, où le visiteur va pouvoir contempler le travail des étudiants. Donc il y a différentes conférences aussi qui sont proposées tout au long de ces trois jours, des spectacles également, donc du théâtre. On jouera Le Roi Semeur plusieurs fois dans la journée de l'UNESCO. On jouera aussi un spectacle nocturne le vendredi et samedi soir. Tout ça un peu mis en scène et... pour distraire, diffuser les végétales aussi, où les jeunes filles s'habilleront avec des robes de leur création. Il y a un peu de tout et on vous encourage à venir.
C'est ça le miracle du théâtre, le roi va mourir plusieurs fois par jour.
Exactement.
C'est extraordinaire.
J'avais pas compris ça, j'avais compris comme c'était des fleurs, le roi se meurt.
Ah non, mais tout à fait.
C'est pas ça. Ah, c'est
même bah pas trop du coup, mais ouais, c'est ça. On n'y avait même pas pensé, dis donc.
Mathieu, tu voulais rebondir sur les conférences, je crois.
Oui, c'était pour demander vraiment quel thème ça aborde. C'est quoi la démarche? C'est de sensibiliser le public de...
Alors, il y a plusieurs conférences qui sont proposées, notamment, souvent, c'est donc des intervenants qui s'occupent, par exemple, d'associations. Notamment, il y a quelqu'un qui va venir pour les étudiants à propos de la guérilla gardening. Donc, c'est le président de cette association en France. Donc, c'est une association qui, en fait, disons, va planter dans des espaces publics, mais illégalement. Donc, par exemple, la nuit, ou voilà, ce genre de choses. Donc, dans les espaces, normalement, il n'y a que des pelouses, tout ça. Eux, ils vont venir planter des bulbes. Comme ça, il y a des opérations qui se font un petit peu... donc, parfois, c'est plus ou moins public. Par exemple, du côté de Belle-Baie, il y a un petit coin sur le campus où il y a des plantes potagères, en fait. Donc, on peut venir chercher ces légumes si on a envie. Mais en théorie, c'est pas légal. Donc, voilà, il y a par exemple des conférences là-dessus. Il y en aura aussi sur des spécialistes. Alors, là, j'ai plus trop les conférences en tête, mais c'est vraiment dans le domaine du végétal ou spécialisé, par exemple, dans la réintroduction du végétal en ville ou voilà, ce genre de thème. Mais après, tout le programme, en fait, est disponible sur notre site internet. Donc, c'est expoflow.free.fr. Donc, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, normalement, tout est détaillé. Et voilà, à propos des conférences, c'est... pas si vous pensez à autre chose. Mais...
Mathieu, toi, tu voulais enchaîner.
Du coup, vous parliez de gens qui plantent dans l'espace public, de ramener le végétal en ville. Ça pose un peu la question de la place du végétal dans notre société. Est-ce que vous pensez qu'on devrait l'introduire plus dans les villes, dans nos espaces publics
Qui veut répondre?
Vaste question.
D'ailleurs, c'était l'un des sujets d'un film qui était passé au 400 coups, dont on a été partenariat, qui était En quête de sens. Et donc, on avait fait venir donc, des intervenants. Je crois qu'il y avait un agronome, il y avait des membres de l'association Pèlerinage de la Graine aussi, qui posaient un peu la question de notre rapport avec ce végétal et notre gestion un peu, notre consommation et de tout le rapport qu'on avait avec les plantes en général, en fait.
Mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant. Nous, dans notre école, on est quand même à l'interface entre le monde du paysage et le monde de l'horticulture et du coup, de la plante et du jardinage et de la fleur, enfin tout ça. Et c'est vrai que on se pose beaucoup ces questions-là, notamment... de jardiner en ville, de créer des jardins communautaires où les gens puissent... Parce que c'est pas juste le fait de végétaliser, c'est aussi un point où il y a du végétal, c'est un point de rencontre, c'est un point de bien-être dans les villes. Donc d'où la multiplication actuellement des parcs de l'agriculture urbaine également, l'agriculture sur les toits, les choses comme ça. C'est des choses qui rentrent un peu dans la tête des gens. Et en plus de créer ces espaces-là et de permettre aux citadins de se sentir mieux, ça leur permet aussi de relier finalement avec la nature quelque part, même en étant en ville, et d'avoir un petit bout de nature pas trop loin. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui tend à se développer et on l'encourage quoi.
Vous allez aussi, on l'a vu sur le programme, parler du concept d'agroécologie. Mathieu, t'as sélectionné un extrait. Vous allez reconnaître la voix très très facilement, de savoir ce qu'il pense de l'agroécologie. On écoute ça, on en discute juste après.
Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le fauné d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole, qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Et pendant qu'on y est, on pourrait toucher le béret et on aurait même le droit, pour chaque produit acheté, de faire une photo. Ce n'est pas les agriculteurs pour moi, ce n'est pas une espèce en voie de disparition. Et ce ne sont pas des cantonniers, je précise avoir le plus grand respect pour les cantonniers. Les agriculteurs sont des entrepreneurs.
Merci, M. Sarkozy.
Voilà, la réponse est assez directe de Maëlle. Merci, M. Sarkozy. Plus sérieusement, quand vous entendez ça, ça vous fait quoi? Vous vous dites, ce gars-là n'a rien compris, finalement? Ou ça se passe comment dans votre tête?
Je pense qu'on trouve qu'il est un petit peu déconnecté du milieu. Il ne se rend pas vraiment compte. Enfin, après, on ne peut pas dire que... Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas forcément de famille qui travaille dans ce milieu-là non plus. Mais à travers l'école, en tout cas, ce n'est pas du tout la vision de ce domaine-là que j'ai. Et nous, ce n'est pas du tout la philosophie, disons, de l'école. On essaie vraiment de faire avancer les choses. Il y a un club permaculture dans l'école. Enfin, il y a des gens qui... Disons qu'on dispose de terrain donc autour de l'école. Et on peut faire nos petites expériences, on crée nos petits jardins. Enfin, voilà, et on essaie vraiment de faire avancer les choses. Donc, comme disait Adèle, on a vu donc des intervenants à propos du film En quête de sens, et c'est un film vraiment intéressant qui fait réfléchir en fait sur les autres façons de vivre dans le monde, le rapport à la nature, tout ça, et puis ça fait vraiment se poser des questions. Donc je sais pas si Sarkozy a regardé ce film, mais en tout cas moi je lui conseille, parce que c'est vrai qu'on voit vraiment les choses différemment, et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément que les grands agriculteurs subventionnés par la PAC. Il n'y a pas que ça, il y en a qui en souffrent d'ailleurs en ce moment, c'est pas forcément super, mais en tout cas, je pense qu'il y a, il y a les deux, disons, il y a vraiment les deux types d'agriculture, mais il y a une autre agriculture qui essaye d'avancer, de prendre le dessus pour un petit peu changer. Justement, le but, c'est de changer les choses. Donc si dès qu'il y a une petite innovation qui se met en place et que tout de suite on la détruit dans l'œuf, il y a plus aucune chance que ça avance.
Marc, tu voulais réagir aussi.
Non, quand vous dites changer une innovation qui change les choses, je pense pas que c'est une petite innovation de vouloir se tourner, c'est pas tout à fait le sujet, mais entièrement vers l'agroécologie. Est-ce que vous pensez pas justement que de placer un type d'agriculture au-dessus d'un autre, ça peut porter préjudice à l'agriculture modérée, raisonnée?
Moi je sais pas si ça peut réellement pour l'instant porter préjudice là dans l'immédiat. Je pense que c'est une tendance. Enfin, je pense que les agriculteurs doivent pas s'opposer les uns les autres non plus. Après, bon, sur le terrain, c'est évident que voilà, ça se passe pas. On n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Mais je pense que c'est une réflexion globale que les agriculteurs dits conventionnels ont en ce moment. Enfin, il y en a beaucoup qui réfléchissent à ça, à se reconvertir ou à changer leurs pratiques.
C'est compliqué.
Mais c'est pas bon du coup non plus comme disait Charlotte, de casser ça dans l'œuf, quoi. Parce que je pense là on n'est pas. Enfin, ça c'est mon avis et j'engage pas les gens, tout le monde de l'école derrière. Mais on n'est quand même pas dans un modèle d'agriculture durable au niveau mondial. C'est pas un modèle d'agriculture durable qui domine. Et si on veut, on peut pas continuer comme ça. Enfin voilà, ça c'est mon avis. Et je pense que les gens qui ont envie de changer, il faut pas les dégoûter.
Oui,
et voilà, il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place et dans lesquelles beaucoup d'agriculteurs qui ont leurs pratiques qui ont des pratiques conventionnelles pour l'instant pourront se reconnaître, et du coup ces personnes-là auront peut-être envie de changer et voilà, vers quelque chose qui leur conviendra mieux à eux aussi, quoi.
Pour réfléchir à ces questions et aussi en prendre plein les mirettes, faut le dire, l'Expo Flow, c'est du 18 au 20 mars. On retrouve toutes les infos et sur votre site internet et sur votre Facebook, qui est assez fourni, il me semble.
Tout à fait. On a un bon secteur communication.
Et on dit merci à Adèle. Le sous-marin revient juste après ça.
navigue dans ma
Sociedad Recreativa, un titre des camaradas. Évidemment, ça se passe dans le sous-marin sur campus. Et tout de suite, après avoir parlé d'exposition florale, on va parler de sketch, puisque vous organisez les deux A. On vous appelle comme ça maintenant, mais surtout Alain Boussemar, hein, quand même, faut préciser.
Oui, alors... Il faut préciser que ce ne sont pas les deux A qui organisent le festival du sketch.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai essayé de
nous,
préciser.
Nous sommes une équipe.
Participez aussi à ce festival. Festival, d'ailleurs, c'est la 13e édition. Si je ne m'abuse, il n'y en a pas eu l'année dernière. Alors, comment ça se fait ?
On a voulu changer la date dans l'année. Avant, on faisait les sélections au mois de mai, et après, fin septembre, début octobre, on faisait la finale. Mais entre les deux, il y a les vacances. Et ça pose souvent un problème, et souvent, surtout pour les jeunes, qui font du théâtre une année, qui l'année suivante n'en font plus. Donc ça posait un peu quelques soucis. Puis on a voulu resserrer les deux dates sélection finale pour, disons, moins, que les gens soient moins pris, que ça soit plus groupé, quoi. Bon, est-ce que le mois de mars pour les sélections et le 3 avril pour la finale, est-ce que c'est une meilleure date? Je ne sais pas. Cette année, on a eu beaucoup de difficultés à, quand même, il faut le dire, à mobiliser un peu les troupes. C'est vraiment la période où toutes les troupes jouent actuellement leur pièce. Donc on va réfléchir. Mais malgré tout, demain soir, il y a les sélections qui auront lieu à 20h, salle Jacques Brel à Montreuil-Juigné. Et la finale aura lieu le 3 avril à 15h, salle Jacques Brel.
Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'historique de ce festival ? Quelle était la démarche et l'état d'esprit quand vous l'avez créé ?
Alors, la démarche, disons qu'au départ, l'idée venait d'une personne qui est metteur en scène à Montreuil-Juigné, qui s'appelle Guy Moget. Et donc, c'est lui qui a eu l'idée de départ. Et l'association qui a pris en main l'organisation de ce festival, c'est une association qui a été créée il y a déjà pas mal de temps, en 1995, pour un spectacle particulier, qui était un grand spectacle en plein air avec quatre lieux scéniques. Et nous avions besoin de fédérer plusieurs associations parce que ça occupait beaucoup de monde. Il y avait plus de 150 personnes. Et donc, c'est pour ça que c'est l'Union Montreuillaise d'associations culturelles, l'UMAC, qui organise le Festival du Sketch, qui a organisé aussi d'autres spectacles dans les châteaux de la Thibaudière, à Montreuil, à Avrier. Mais le festival, depuis 13 ans, ça devient maintenant une habitude, quoi. Alors, je précise que c'est un festival qui s'adresse aux amateurs. C'est vraiment pour eux que c'est fait. Ça s'adresse aussi... la particularité, c'est que ça s'adresse aussi aux jeunes. Donc, on a une catégorie jusqu'à 16 ans, donc, avec donc, une compétition entre jeunes. Et puis, ça s'adresse à des troupes, mais aussi ça s'adresse à des individuels. C'est-à-dire, vous pouvez venir faire un sketch l'année prochaine, mesdemoiselles aussi. Même si vous ne faites pas partie d'une troupe, vous pouvez très bien vous présenter avec un sketch.
C'est ça, donc, c'est-à-dire que si on n'a aucune expérience, on peut quand même tenter sa chance.
Vous pouvez tenter votre chance.
Oula, ça a l'air de tiquer chez notre deuxième Alain.
C'est ouvert.
On peut tenter, mais ça risque de ne pas passer, c'est ça ?
Ah, bien évidemment. Alors, demain soir, évidemment, les sélections se passent devant un jury. Donc, des gens de théâtre, des gens qui sont... Il y a même des comédiens professionnels, des gens qui ont fait de la mise en scène. Il y a des gens qui ont fait aussi, qui ont écrit des sketchs. Donc, quand même des gens qui ont une expérience. Et chaque sketch est noté. Et on retient... un certain nombre, on choisit dans les meilleurs pour la finale, pour en faire un spectacle.
Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait plusieurs catégories.
Il y a les catégories, vous avez commencé à nous l'expliquer, on peut y aller en jeune, etc. Voilà. Mais il y a aussi des catégories de sketch, non ?
Alors vous pouvez venir présenter un extrait de pièce, vous pouvez venir présenter un sketch connu déjà, qui a été joué par quelqu'un, édité, mais vous pouvez aussi écrire votre sketch, il y a une catégorie création. Donc, pour ceux qui ont la plume facile, ils peuvent très bien aussi. Et il y a une catégorie particulière qui est dans le thème de l'année de la commission culturelle de la ville de Montreuil-Juigné. Cette année, c'est l'Orient. Donc, si vous avez un sketch sur le thème de l'Orient, vous serez jugé d'une manière un peu particulière parce que c'est le thème de l'année culturelle. Donc, voilà.
Marc, tu as été pointé du doigt là. Tu as une plume facile apparemment. Tu vas pouvoir.
Marc, s'il veut venir l'année prochaine, il sera bienvenu.
Facile,
hein.
Je suis pas persuadé, mais j'ai été pointé du doigt. J'ai pris ça comme un compliment.
Oui, voilà.
Vous l'avez bien aimé.
Adèle, Charlotte, Maëlie, vous, ça vous tenterait? Vous êtes familière avec l'univers des sketchs? Non.
Bon. De là à en écrire, je sais pas. Puis, ça plaira bien à quelques-uns.
Je suis sûr que dans votre école, il y a plein d'idées à puiser pour en faire des choses soit touchantes, soit pour faire réfléchir, soit pour amuser. Bon, notre festival est souvent, disons, fait de sketchs drôles. Si on n'y vit pas en général. Mais ça, ce sont les compétiteurs qui choisissent des thèmes amusants, quoi, drôles.
Et qu'est-ce qui plaît dans ce festival? C'est le côté justement innovation, création aussi, c'est d'avoir quelque chose de neuf, là, de neuf, un souffle un peu nouveau.
Ah ben Alain,
a l'air parti. Ouais.
Oui, non, mais je suis pas parti, mais Alain B a parlé de l'organisation du tournoi. Moi, je me suis raccroché à l'UMAC en tant que du organisateur cette année. Moi, j'étais plus participant, acteur, plusieurs fois. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'affronte entre guillemets, on est contre d'autres acteurs, et ça permet des fois de se remettre un petit peu la tête à l'endroit, parce qu'on s'aperçoit, il y a quelques pointures qui viennent à chaque fois, là, pointures du département, qui font des belles choses. Alors après, Alain parlait de comiques, de drôles. Le théâtre amateur, malheureusement, est quasiment condamné à faire du comique parce que les gens, on s'est essayé. Moi, je fais partie de l'association Passer de scène de théâtre à Montreuil. Là. On s'est essayé dans pas du dramatique, mais du plus un peu plus. Et là, ça ne marche pas. Quoi. Les gens, ils viennent pas. En amateur, ils n'ont pas forcément envie d'aller. On voit un spectacle plus triste quand c'est Le Roi se meurt.
Mais c'est pas triste du tout.
Ça dépend comment c'est mis en scène.
Mais comment on peut expliquer que les sketchs soient directement assimilés à forcément quelque chose de drôle? On en parlait et ça peut pas être autre chose dans l'imaginaire.
On a eu un conteur qui avait raconté une très belle histoire. On a eu aussi des Rimuaux d'Anjou dans le patois angevin. Donc il n'y a quand même pas toujours que des choses drôles. C'est une majorité, mais il n'y a pas que ça. La conteuse qui parlait en patois, accompagnée d'un air corléoniste, ça a donné quelque chose de très bien. Quoi. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que le jour de la finale, il y a un invité d'honneur. Ça, c'est important de le souligner.
On allait y venir.
Parce que les notes du jury lors des sélections seront conservées. Mais le jour de la finale, l'invité d'honneur, lui aussi, va noter les gens qui sont en compétition. Et donc, les deux notes s'ajoutent pour... on va rester modeste, mais pour donner le coup de cœur après à ceux qu'on a jugé le meilleur, quoi. Les meilleurs.
On va peut-être lever le mystère et révéler son nom à cet invité d'honneur.
Alors l'invité d'honneur, oui, c'est Patrick Cosnet. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais Patrick Cosnet, c'est un comédien professionnel qui a créé un parcours assez étonnant, parce que c'est un ancien agriculteur et qui écrivait donc des pièces de théâtre souvent orienté sur le monde du rural, hein, le monde de l'agriculture. Ça doit vous parler, ça. Hein. Et donc, il a créé sa troupe depuis déjà une vingtaine d'années. Il se produit à Poincé, au théâtre de l'Herberie. Et on est très content de l'avoir comme invité d'honneur parce qu'il est, il est très pris et il joue beaucoup des pièces différentes. Et en plus, il fait des tournées. L'été, il a, c'est assez amusant. Il a le théâtre à la ferme. Donc, il part avec son matériel et il va jouer dans les fermes, mais dans, dans tout le Grand Ouest. Et donc, c'est lui que nous aurons le plaisir d'accueillir le 3 avril pour disons, présider notre festival.
On le rappelle, les sélections, c'est demain. Ça se passe salle Jacques Brel, à Montreuil-Juigné. La finale, ce sera le 3 avril. Et puis, bah, chez nous aussi, on a des gens qui aiment bien faire des sketchs. C'est les imposteurs. Et bah, on va leur laisser le temps de venir. Et pour ça, on va écouter le titre « Spectateur ». C'est Tradition qui est en featuring avec Nouvelle Air, Low School et Elle Atypique.
Plusieurs décennies, l'MC a scellé les phases précises de New York City aux cités de province française. Cervelle insoumise, mise à mort de l'hésitation, évasion artistique, texte en lévitation, tradition, tradition. Démerde-toi avec ce que t'as, autodidacte, pas le choix, sinon tu restes en bas. C'est l'école de ceux qui se battent, de ceux qui se lamentent pas. Moi je veux voir pousser les rimes là où on les attend pas. Un peu de solidarité, pas qu'en cas d'attentat. Je veux une relève qui pense, pas qui pompe Atlanta. Un peu de finesse dans l'écrit, pas que du j'tire dans le tas. Une relève qui se fixe des buts et qui les atteindra.
Tu sais, les mêmes gestes se reproduisent depuis des générations. Si je respecte ceux qui suivent, c'est que je poursuis la tradition. Toujours de l'ambition, l'écriture c'est de l'addiction. J'articule mes inhibitions entre réalité et fiction. La relève arrive, révèle des réservoirs à rimes. Dans l'ouest, les averses de mots se succèdent, pas de territoire aride. Et c'est toujours à peu près la même façon de procéder. Même si les petites cartes SD ont remplacé les gros CD. Les outils changent, la création reste le même jeu. Coup de silex briquet qui flambe au fond, ça reste le même feu. Dur d'éteindre la flamme, jamais on abandonne. Nous, bouche, nouvelle ère avec spectateur le jeune loup.
On fait comme on a toujours fait, avec des bouts de ficelle. On aime partager ce que l'on sait, on transmet l'étincelle. On fait comme on a toujours fait, avec des bouts de ficelle. Avec des bouts de ficelle. On fait comme on a toujours fait, avec des bouts de ficelle. On aime partager ce que l'on sait, on transmet l'étincelle. On fait comme on a toujours fait, avec des bouts de ficelle. On transmet l'étincelle.
Je maîtrise la recette, depuis mes prises sur Capus cassette. Multicasquette derrière les fourneaux, je cuisine la rime parfaite, je sers pas de set. Puis monde insinuant dans les crânes, inondant des écrans aussi plats que leur encéphalogramme. On grave nos textes, nos productions dans des ateliers clandestins. Les meilleurs produits sont faits à l'ancienne, distribués sous veston et juste avec ce qu'on a sous la main. On prépare un grand festin, les outils se modernisent, mais le savoir-faire reste ancestral et sans sèche-trace. Marche sur les pas, ceux qui ont ouvert le chemin. Tu peux pas occulter hier si tu veux fabriquer demain. Combien font fausse route pour avoir ce qu'ils pensent tous mériter. Les autres sur accroche tout en prônant les valeurs héritées.
J'ai tout de suite compris le fond qui fait la forme, qu'on fait la force de cet art, sens de la formule et métaphore qu'ont eu l'effet d'un miroir, plus qu'un simple bruit de fond. La création a l'état pur des convictions, à chaque mesure une vision, juste un maillon d'une longue chaîne que traîne le temps. J'ai vu, verrai encore sa toile s'étendre, les mots mordre des samples, mélodie renaissant de ses cendres, ambiance d'un soir de décembre, beatmaker tuant le silence. J'aime écouter ses battements, le vinyle et ses craquements, le débit des paroles et le langage, rugissement d'un lion en cage. Avant que la page tourne beaucoup, ce seront noircis d'ici là. Si tant des messieurs prennent le stylo, y'aura pas de point final.
On fait comme on a toujours fait, avec des bouts de ficelle. On aime partager ce que l'on sait, on transmet l'étincelle. On fait comme on a toujours fait, avec des bouts de ficelle.
Avec des bouts de ficelle.
On fait comme on a toujours fait, avec des bouts de ficelle. On aime partager ce que l'on sait, on transmet l'étincelle. On fait comme on a toujours fait, avec des bouts de ficelle.
On transmet l'étincelle.
De retour dans le sous-marin sur campus. Les imposteurs ont eu le temps d'entrer dans le studio. Messieurs, c'est à vous.
Bonsoir Pierre-Louis, bonsoir à tous.
Avant toute chose, je tiens à présenter des excuses au nom des imposteurs. En effet, la semaine dernière, bien que Pierre-Louis nous avait demandé de ne pas faire de publicité, mon collègue des imposteurs, Maxime, avait, à ce même micro, subtilement contourné cette interdiction. Et quand je dis subtilement, je dois même dire habilement, puisque Maxime a réussi à glisser que nos amis de la LIMA, la Ligue d'improvisation angevine, organisaient ce samedi 19 mars, après-midi et soir, un festival de théâtre d'impro avec des concepts d'impro inédits au château du Plessis-Massé. Il a même réussi à faire passer le message comme quoi toutes les informations sur cet événement étaient accessibles sur le site de la LIMA, le www.lima.asso.fr. Eh bien ce soir, nous ferons preuve de plus de rigueur éthique et nous ne nous laisserons pas aller à ce genre de réclame. Voilà, c'est dit, hop, basta, on n'en parle plus. Ce soir, nous allons plutôt faire la part belle à cette autre forme de spectacle comique qu'est le sketch écrit, puisqu'auront lieu cette semaine, mardi 15 mars plus précisément, donc en fait demain, les sélections pour le 12e festival du sketch de Montreuil-Junier. Or nous, on est les imposteurs, et la volonté qui nous anime, c'est celle d'informer le public, sans démagogie, sans les prendre pour des jambons, sans complaisance ni compromis. Nous ne vous proposons donc rien de moins que de suivre en direct nos deux journalistes spécialistes du sketch, Eddy Seller et Jacques Sion, qui vont vous commenter en direct les présélections pour les sélections de demain. On me fait signe que la liaison duplex est établie, oui c'est bon, attention, top générique, on se retrouve en direct depuis Montreuil-Junier.
Et oui, tout à fait, Eddy, nous nous retrouvons en direct de Montreuil-Junier pour cette 13e présélection du festival de sketch. Le public est là, il est ravi d'être là, il attend beaucoup de ses candidats et on voit apparaître le premier candidat qu'ils avancent sur scène d'un pas plutôt à l'aise, hein. Oui. Il a l'air d'être plutôt content d'être là.
Alors, bonsoir Jacques. Alors, le premier candidat, c'est Maxence Vrillard de La Tessoile. Donc, un candidat qui brille sur une catégorie particulière, celle du multi-personnage. C'est-à-dire que sur un sketch d'une minute trente, en fait,
tout
il va
fait,
jouer
tout à fait.
90 personnages différents, hein, qui vont se donner la réplique.
Ça a l'air assez conceptuel, puisque ça fait déjà 23 secondes qu'il est sur scène. Il en est déjà, j'en perds mes mots, à 34 personnages. Hein. On ne saisit pas tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, mais en tout
78,
cas, il se démène.
79.
Voilà, 82. Ah, il continue dans les coulisses. Et c'est le deuxième candidat qui s'avance, qui demande si la salle... Alors, il demande si les gens de la salle, s'ils vont bien. Excusez-moi, j'ai une réception très mauvaise
ouais.
d'ici.
Ouais, tout à fait. Alors là, donc, hein, sur un exercice de style un petit peu compliqué, celui de l'appel au public, hein, qui est assez casse-gueule. Puisque
d'ailleurs,
si,
ça ne marche pas voilà, beaucoup, puisque les réactions sont éparses. Deux, trois personnes semblent hocher de la tête. Et c'est un doublé. Il repose la question, est-ce que vous êtes sûr que ça va? Et là, c'est une réponse franche.
Oui, une réponse collective. Voilà, ça y est, on sent que là, l'ambiance est lancée, le ton est donné. Ça part très vite. Voilà, un premier jeu de mots, un deuxième jeu, un troisième jeu. Oh là là,
c'est un bide. Oh là là, c'est le bide. Attention, un léger froid dans les spectateurs.
Après, ça sent là, les juges ne pardonnent pas ce bide à ce moment-là. Critique du programme. Non, c'est tellement dommage. Attention.
Ça ne va pas. Ah, il essaie de se rattraper avec des blagues communautaires. Non. Le public est vraiment déçu. Ce genre d'humour n'est plus de mise.
Le candidat suivant. Avant déjà. Alors attention, là ça va démarrer sur un exercice de style très 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 compliqué. On demande le silence dans la salle. Oui, on voit bien le lever de bras, les levées de bras des deux côtés de part et d'autre, bras 40 cm des épaules, levée de la victoire qui se dessine. Et c'est fait. L'imitation de Chirac, elle est parfaite, très
superbe,
bien réalisée.
Superbe. On n'en avait
très
pas
bon
eu
moment.
D'aussi bien depuis 95.
Oh là là, oui. Magnifique. Et 95 qui était une période particulièrement riche d'actualité pour Jacques Chirac justement.
Et il se lance dans une revue de presse qui balaye l'actualité de 95. Les gens ont l'air un petit peu perdus, c'est la confusion parmi les spectateurs.
Oui. Une petite blague sur Raymond Barre, là on a perdu tous les moins de 50 ans.
Je vois quelqu'un se lever d'ailleurs, puis on lui explique qu'il y aura d'autres humoristes puisque c'est un festival et que plein de gens veulent se succéder. D'ailleurs c'est un duo qui arrive sur scène. Oh, quel joli jeu de jambes. Oui, superbe jeu de jambes, belle occupation de l'espace scénique. Là, on voit qu'on a affaire à des professionnels.
À des professionnels, voilà, un échange de répliques au vol. Oui.
Oui. Alors, je dis professionnel, même si c'est un festival réservé aux amateurs, on sent que certaines personnes se destinent peut-être dans leur futur proche.
Oui, tout à fait, car l'amateur qui parle d'amateur ne parle pas forcément d'amateurisme.
Tout à fait, et c'est un duo qui enchaîne grimace sur grimace, ce qui semble plaire au premier rang, qui est principalement constitué d'enfants, il faut le rappeler.
Tout à fait, mais c'est une catégorie comme une autre.
Oh, le sketch du croche-pad, bien joué, bien joué. Ça, c'est techniquement superbement exécuté.
Un exercice de mime tout à fait intéressant. On travaille bien autour du point fixe. Ah, attention, le moment préféré des spectateurs. Eh oui, l'ascenseur qui marche à tous les coups.
Oh, c'est super. Ils ont juste oublié de mettre une plaque opaque devant leurs jambes pour qu'on croit la supercherie,
petit manque en termes de décor, effectivement.
Donc ça marche. Et attention, et c'est la chute.
C'est
la chute de ce sketch, une chute pas vraiment réussie, mais qui permet quand même de se glisser tranquillement vers les coulisses.
Tout à fait, il fallait en arriver là. On est à un festival du sketch, un festival de sketch sans chute, c'est un festival de sketch sans chute.
C'est une superbe métaphore que vous nous dites là, et je suis ravi. Oh, hein, dernier candidat qui s'avance sur la scène. Oh, super.
Oui, alors il s'agit de Jean-Claude Charal de Pélois et les Vignes, alors spécialisé dans un registre de blagues plutôt pour adultes, hein, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, on sent du graveleux, mais c'est exécuté avec finesse, on sent que les jeux de mots sont subtils.
On la contrepétrie. Ah, celle-là, on ne l'a pas vu venir. Elle nous a tous pris de court.
Incroyable. Oh là, le public se lève. C'est une ovation générale.
C'est une ovation. C'est magnifique. C'est formidable. Eh bien, je crois que c'est sur cette dernière.
C'est incroyable. Les gens jettent les chaises.
Feu.
C'est superbe.
Eh bien, je crois que c'est sur cette dernière contrepétrie que nous allons rendre l'antenne.
Tout à fait.
Merci, mon cher Jacques.
Merci, mon cher Eddy.
Et puis, à l'année prochaine pour la prochaine édition du Festival de Sketch de Montreux-Junier.
À bientôt.
Merci beaucoup les imposteurs. On peut les applaudir, oui. Allez, c'est parti. Les deux A, vous en avez pensé quoi? J'ai vu quelques sourires se dessiner quand même.
Je veux dire simplement une chose, c'est qu'il faut qu'ils se présentent. Tous ceux qui étaient là ce soir là. Il faut qu'ils viennent, hein, ils vont nous faire rire. Et puis deuxièmement, ça arrangerait peut-être la municipalité, puisque vous dites que la salle Jacques Brel est en feu, elle va être refaite à partir du 1er avril. Enfin, du 3 avril. Donc vous êtes tombé dedans, sans le savoir. Non, c'est bien, mais je le disais tout à l'heure, je te le disais là, parce que je t'avais vu jouer avec la Lima. Dans ce qu'a dit Alain,
on n'a pas le droit de dire qu'il y a un spectacle samedi prochain de la Lima.
Non, oui, nous, non, tout à fait.
Surtout que ça se passe au château du Plessis-Massé. C'est un bel endroit, mais nous n'avons pas le droit d'en parler. Donc voilà. Essayons de rester discret.
L'éthique. Eh bien, c'est bien de ne pas l'avoir dit. Voilà. Non, je voulais simplement dire que, comme disait Alain tout à l'heure, rien ne vous empêche de vous présenter hors Lima avec un sketch.
Les imposteurs aussi.
Ou hors les imposteurs. On est preneur. Donc, alors, vas-y.
On va y songer.
Mais du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que nous écrivions des textes.
Ah, et nous ne savons pas écrire, comme vous avez pu l'entendre ce soir.
Non, je crois qu'on peut les féliciter, hein, parce que c'est pas facile, l'improvisation. Hein. Je sais bien, ils avaient quelques notes quand même, hein, malgré tout. Hein. Ils avaient un fil conducteur, mais peu de choses, donc bravo. Hein.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup les imposteurs. Comme tous les lundis, maintenant c'est devenu une habitude et on vous reçoit avec énormément de plaisir et on espère que c'est partagé par nos auditeurs. Merci beaucoup Adèle, Charlotte et Maïli d'être passés nous voir pour nous parler de cette 19e Expo Flow. Je rappelle que ça se passe du 18 au 20 mars et qu'on peut retrouver toutes les infos sur votre site internet et votre Facebook. Merci encore d'être passés.
Merci.
Et merci beaucoup à Alain et Alain, ou aux deux A d'ailleurs, on ne sait même plus comment vous appeler, mais en tout cas, merci de nous avoir parlé de ce festival de sketch à Montreuil-Juigné. Je rappelle que... Oui, vous vouliez dire quelque chose, Alain.
On a juste oublié une chose, c'est qu'on n'a pas dit que la mairie de Montreuil-Juigné était partenaire du festival de l'UMAC pour la première fois cette année.
Ah, et oui, c'est important de le souligner, surtout pour une première.
Surtout pour la subvention.
Il faut bien. Et donc, on rappelle que les sélections, c'est demain, finale, le 3 avril. Merci beaucoup à Marc pour ta chronique. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis, un grand merci à Quentin qui était à la réalisation ce soir et à Étienne qui était à la programmation. Comme tous les soirs, moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour un nouveau sous-marin.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.